Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Coco, merci à l'équipe de nuit. Nous sommes le lundi 17 janvier, pas la peine de crier, débute sa rencontre avec la réalisatrice Nourrit Aviv. Mais avant cela et sans plus tarder, les premières nouvelles de la matinée. Elles nous sont présentées par Solène Lehen. Bonjour Solène.
Bonjour Marie, bonjour à tous. En Tunisie, le Premier ministre Mohamed Ranouchi doit annoncer aujourd'hui la composition du nouveau gouvernement avec l'arrivée de représentants de l'ancienne opposition. Hier, les affrontements à Tunis ont été violents. L'armée s'est opposée aux forces fidèles à Ben Ali dans le palais présidentiel. Et aujourd'hui, les habitants de la capitale ont peur. Claire Lalanne, notre envoyée spéciale, a passé la nuit avec une famille de Tunis.
Dans leur grand appartement glacial du centre-ville, Najet et Mohamed ont passé la nuit sous une couverture devant les chaînes de télévision en continu. En fond sonore, le grondement des hélicoptères et des échanges de tirs beaucoup plus nourris que les nuits précédentes. Dans le quartier, de longs combats ont opposé les forces de l'ordre à des snipers cachés dans des immeubles. Par précaution, le couple de retraités tire les rideaux des fenêtres qui donnent sur la rue. Le pain manque. En raison du couvre-feu, les boulangeries ne travaillent plus. Alors Najet le fait maison. Une façon de ne pas laisser la peur la paralyser. Son fils Sami a rejoint le comité de défense du quartier, des hommes de tous âges qui s'arment de bâtons, de hachoirs, de marteaux et qui contrôlent tous les véhicules passant dans la rue. Hier après-midi, ils ont arrêté des étrangers en taxi, trois individus qui circulaient avec des fusils à pompe. La famille Béchir a déjà vécu trois couvre-feux, mais celui-ci est le plus douloureux. En se relevant de son tapis de prière, Mohamed glisse qu'il a surtout prié pour un retour à la normale.
Peu à peu, les proches et la famille de l'ancien président Ben Ali sont arrêtés. Grandes surfaces, import-export, immobilier, banque, téléphonie, médias. Le clan Ben Ali était jusqu'ici implanté dans tous les secteurs de l'économie. Incontournable, comme l'explique Béatrice Hibou, directrice de recherche au CNRS.
Dans les privatisations, notamment dans les premières années, ils ont pu acheter des entreprises publiques qui étaient privatisées à des prix extrêmement bas et après ils les ont revendues. Ça va de tout, hein, du textile, du ciment, il y avait tout le secteur productif qui était public. Une deuxième modalité, c'est que souvent ils voulaient rentrer dans les capitales d'entreprises qui fonctionnaient bien, donc ils forçaient les propriétaires à vendre une partie du capital de l'entreprise pour rentrer dans cette entreprise et en profiter en termes de dividendes. Vous avez aussi l'importance des clans dans la contrebande. On passe par eux pour contourner les droits de douane, etc. Il y a aussi toute une série d'arrangements entre ce monde des affaires traditionnel qui a cru que s'allier avec des proches du pouvoir permettait aussi d'améliorer les affaires. Et donc, il n'y a pas eu que de la prédation active, il y a aussi eu une stratégie des industriels tunisiens pour espérer améliorer la situation de leur entreprise.
Béatrice Hibou répondait à Sophie Delpont. Retour surprise à Haïti pour Baby Doc. Jean-Claude Duvalier a atterri à Port-au-Prince hier. En pleine crise politique, après un séisme et une épidémie de choléra, l'ancien dictateur a été acclamé à son arrivée par des manifestants. Jean-Claude Duvalier vivait en exil en France depuis près de 25 ans. Nicolas Sarkozy assistera aujourd'hui aux obsèques des deux jeunes Français tués par des ravisseurs au Niger il y a une semaine, obsèques qui auront lieu à Lincel, dans le Nord. Marine Le Pen a défendu hier un État fort, laïque et républicain et a clairement affiché son ambition de remporter la présidentielle de 2012. Elle est devenue officiellement la nouvelle présidente du Front National après avoir obtenu plus de 67% des votes des militants. On en reparlera dans la revue de presse en ligne à 6h30. Jacques Servier est appelé à comparaître devant le TGI de Nanterre le 11 février prochain, c'est ce qu'affirme Le Figaro ce matin. L'affaire prend de l'ampleur. Xavier Bertrand, le ministre de la Santé, a redit hier que les responsables du laboratoire Servier devaient répondre de leurs actes. Et avant-hier, le rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, a accablé le fabricant du Mediator. Selon ce rapport, le médicament aurait dû être retiré de la vente dès 1999, soit 10 ans avant sa suspension officielle. Jean-Claude Pajac.
Le rapport de l'IGAS est tellement accablant qu'il y aura forcément des conséquences pour les politiques, les industriels et l'ensemble du système. Première victime, les politiques. Le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, a reconnu hier une part de responsabilité, mais il a souhaité dans le même mouvement que tous ses prédécesseurs depuis 1974, entendez y compris Martine Aubry, soient entendus par les missions parlementaires. Ce rapport est une catastrophe évidemment pour les laboratoires Servier, poursuivis au pénal par des centaines de victimes et qui risquent de devoir payer des indemnités mobilisation considérable. Mais si la pression de l'opinion se maintient, c'est l'ensemble du circuit du médicament qui pourrait être revu dans les plus brefs délais, comme le demande hier la Mutualité française. Autorisation de mise sur le marché, pharmacovigilance, évaluation des médicaments, tout pourrait très bien être revu de fond en comble. La Mutualité française met le doigt sur l'absence d'investissement public dans les domaines de la formation, de la recherche et du soutien aux publications, ce qui permet à l'industrie pharmaceutique d'aliéner l'indépendance des prescripteurs. Le diagnostic est posé, l'énorme budget public de la santé ne peut plus être géré dans le flou, l'opacité et le copinage, le Mediator est en passe de devenir le plus gros scandale de santé publique depuis l'amiante, les politiques ne peuvent plus se dérober.
Enfin, le temps, pluie à l'ouest ce matin, grisaille ailleurs dans la journée, du soleil seulement sur les Alpes. Les températures ce matin de 0 à 9 degrés en Bretagne et près de la Méditerranée. Cet après-midi de 8 à 12 degrés sur la moitié nord, de 12 à 16 au sud. Marie Richeux, pas la peine de crier avec vous.
Merci beaucoup Solène, on vous retrouve tout à l'heure pour les titres et la revue du web à 6h30. À tout à l'heure. Nous avions quelque chose à fêter aujourd'hui, la centième. Le centième matin de Pas la peine de crier, projet protéiforme que nous souhaitons vitaminer, résultant de l'énergie poétique et collective de ceux que vous connaissez bien maintenant. Mais quelque chose s'est glissé en plus, légèrement au sud, juste un pas au-dessus de la Méditerranée. Une fissure dans ce qui depuis des années était un pouvoir figé. Une fissure surprise avec ce que cela entraîne d'incertitude, de violence, mais aussi d'espoir populaire. Glissons-y des vœux, petit papier plié en quatre, des vœux d'apaisement et d'avenir, puisque janvier n'est pas encore bouclé. Il est encore temps, il est 6h06. Vous ouvrez les yeux, vous êtes sur France Culture. Haha, vous écoutez, pas la peine de crier. Chaque semaine, je rencontre quelqu'un que vous finissez par rencontrer aussi. Et ces rencontres sont plus ou moins fortes, c'est-à-dire exactement comme dans la vie, puisqu'il n'y a aucune raison que ce soit différent. En regardant un par un et dans le désordre les films de Nourrit Aviv, il m'est apparu que ces essais, ces questions laissées ouvertes, cette écoute silencieuse mais non passive résonnaient en moi de façon singulière. Tout comme la réflexion entamée depuis plusieurs années sur la transmission et la langue et l'histoire. C'est avec appétit donc que nous avons cherché la petite rue parisienne où elle vit et travaille depuis de nombreuses années et que nous nous sommes d'abord trompés de porte et puis assis sur des coussins moelleux dans une pièce dont les murs sont recouverts de cassettes vidéo. Si, si. C'est une femme animée, précise, gigoteuse, reformulant et relevant ce que notre pensée dépose dans les mots. Née à Tel Aviv, dans les années 50, sa langue maternelle, c'est l'allemand, mais qu'est-ce qu'une langue maternelle? Son prénom Nourrit est une fleur qui fleurit au printemps, mais n'est pas loin de signifier lumière. C'est une voix que vous allez entendre aujourd'hui, lundi, premier moment de notre rencontre avec la réalisatrice Nourrit Aviv. Bonjour Nourrit Aviv.
Bonjour Marie.
Il semble que vous portez autant d'intérêt à l'endroit d'où l'on vient qu'à l'endroit où l'on vit, aussi à la façon dont on s'appelle. C'est trois questions que je vous adresse comme ça directement. D'où venez-vous? Où vivez-vous? Comment vous appelez-vous?
Je suis née à Tel Aviv. Je m'appelle Nourrit. Et je vis à Paris, mais j'aime bien l'idée que je vis entre Paris et Tel Aviv, entre Paris et New York, entre Paris et Berlin. J'aime bien être entre.
C'est une réalité physique qui fait que vous êtes entre? C'est parce que vous voyagez?
Je voyage, et aussi je voyage dans les langues. Donc, dans la même journée, je peux parler, à nos jours on peut parler n'importe où au monde. Et je parle avec des amis dans le monde. On passe d'une langue à une autre. Bon, là, je sais, je dois appeler Jacques. Est-ce que je vais commencer à lui parler en français ou en hébreu? Je ne sais pas. Et on peut aussi parler en allemand. S'il y a un troisième qui est avec nous. Donc, j'aime bien cette idée de voyager entre les langues.
Le fait d'être né à Tel Aviv, ça fait sens pour vous? De quelle façon?
J'ai attendu toutes les langues autour de moi, hein. Les langues que mes parents m'ont parlé, qui étaient l'allemand, et la rue qui parlait en hébreu, si les gens parlaient en hébreu, hein, à l'école plutôt, mais les gens, ils parlaient vraiment toutes les langues, et nos oreilles se sont habituées, je veux dire, encore aujourd'hui, j'essaie toujours de deviner quelle langue quelqu'un parle. Et je suis très fâchée si jamais je ne reconnais pas, je vais toujours demander aux gens si c'est une langue que je ne reconnais pas.
À quel moment arrivez-vous à Paris ?
En 65, pour venir faire mes études à l'IDEC, l'école de cinéma, qui aujourd'hui est la FEMIS.
Est-ce que vous voulez nous parler de votre entrée dans le cinéma ?
On peut dire que l'entrée dans le cinéma est quand je rentre à l'école du cinéma.
C'est ça pour vous, l'entrée dans le cinéma ? C'est le moment où vous commencez à apprendre officiellement dans un cadre qui est l'école ?
Peut-être l'été d'après, où il y avait 3 réalisateurs. Moi, j'étais en prise de vue. Eux, ils étaient en section réalisation. Ils étaient 3 qui voulaient faire un petit film en été. Ils m'ont demandé à faire l'image. Ce qui était vraiment, pourquoi moi ? Bon, j'étais une fille parmi les garçons en prise de vue et voilà qu'ils me demandent à moi de le faire. Et je crois que c'était vraiment le rite de passage. Après, on a accepté que je sais faire ça. Hein.
Pourquoi après on a accepté ? Qu'est-ce qui de fait n'allait pas de soi ?
Je crois qu'avant, il y avait... Bon, avant c'était comme ça que chaque réalisateur, bon je dirais réalisateur un peu entre guillemets, c'est quelqu'un qui était à l'école, devait faire un tout petit film. Et c'est un opérateur, bon, quelqu'un qui était en prise de vue, qui devait les faire. Il y avait un Brésilien qui a dit « Non, je fais un film trop compliqué, elle ne pourra pas le faire. » Donc ça a bien commencé. Hein.
Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec le fait que vous étiez une femme ?
Évidemment, les Brésiliens. Hein. Après, il y avait un Luxembourgeois qui a tout de suite dit qu'il veut beaucoup tourner avec moi. Hein. Et après, il y avait les 3 Français le premier été. Et c'était, voilà, ils m'ont autorisé.
C'est pas facile de se sentir autorisé dans un métier comme le cinéma.
Oui, mais je crois que je me suis un tout petit peu autorisée moi-même en allant déjà à l'école. Au début, quand le directeur m'a dit « Ah, les femmes font pas ça, il vaut mieux que vous fassiez du montage », je l'ai regardé et
A posteriori, parce qu'il y a quand même peu de femmes qui sont cadreurs encore aujourd'hui, qui sont chefs opératrices, c'est vrai. Pourquoi est-ce que le fait de prendre l'image, de décider du cadre que l'on impose à l'image, ce serait plus masculin que féminin ?
Mais ça ne l'est pas du tout. C'est ce qui se passe dans la tête des gens. La preuve qu'on le fait et que les femmes qui le font, elles le font aussi bien. Non, mais je veux dire, on va pas, c'est évident. Cette histoire, mais c'est pas le seul métier. C'est dans la tête.
Mais pourquoi ?
Je sais pas.
Pourquoi elle serait plus apte à découper, monter plutôt qu'à cadrer ?
Mais parce que c'était comme ça. Je veux dire, pourquoi elles étaient... Non, c'est pas comme ça. Moi, je crois pas du tout qu'elle serait plus apte. C'est juste dans la tradition, que sais-je. Hein. Je ne sais pas... Mais je n'étais pas au courant, je ne les faisais pas du tout comme...
Comme précurseur ou pionnière.
Oui, mais je ne les savais pas. Je venais d'un autre pays dans lequel il faut dire que, bon, c'était peut-être un tout petit peu moins... On ne savait pas que les filles, c'est moins que les garçons. De toute façon, moi, je ne les savais pas. Et j'avais un père photographe et que lui, il pensait qu'évidemment, j'étais la plus géniale de tous. J'ai pris des photos de l'âge... très très petit, ils étaient publiés dans le journal d'enfants, mais je ne savais pas, c'est-à-dire que ce n'était même pas un acte héroïque d'une femme, je ne le savais pas. Heureusement pour moi, vraiment.
Mais vous devenez donc la première chef opératrice femme en France à faire ce métier. Avec qui travaillez-vous ?
Avec le même Bertrand Van Effenter, qui m'a proposé de faire entre la première et la deuxième année l'image. Il m'a promis que quand il va faire son premier long métrage, il va m'appeler. C'était en 1973, j'étais déjà revenue en Israël, j'étais mariée, je travaillais là-bas et il m'a appelée pour faire un film, les siens, en 1973. Après, je ne suis pas retournée, mais parce qu'après, on m'a proposé un autre, de fil en aiguille, hein, ou de film en film. Je crois qu'après, je fais l'image de Histoire de Paul avec René Ferré. Et après, c'est Agnès Varda qui a vu le film que je fais avec Bertrand Van Effenter. Elle a vu à Cannes. Elle m'a contactée et René Alliot m'a contactée parce que il a vu le film que je fais avec René Ferré. Mais il n'était pas au courant que j'ai déjà travaillé avec Varda, qui était de sa génération à lui. Vous voyez, donc en fait, ça c'est un peu... Je ne sais pas pourquoi et comment. Ça, c'était formidable, oui.
Vous fûtes éternelle débutante pendant quelques années.
Oui. D'ailleurs, je crois toujours que quand je fais un film, c'est les premiers. Et surtout, je crois toujours que c'est les derniers.
Boing! You stupid kite, come down out of that tree!
Norita Vive, vous avez décidé de nous faire entendre toute la semaine des voix. Par quoi commençons-nous ce matin?
Par Cathy Berberian.
Chomp, crunch, crunk, crack, crackle. Up, barf, gosh. Deling, 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 deling. Deling, deling, ding, tinkle, tring. Fresh, 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 fresh. Crumb, hiss. Knock, knock, puff, ouch. Got a ticket to ride. The weather tomorrow with mercy, Daddy. Some. Knock, knock. Oh, smack. Grunt, sniff, glab, zbroom, crumb, hiss.
Rumble.
Zbam, zbrank, shrank, at the shrap, slap, gallop. Honk, honk, honk. Slam, slap, smash, splat, snap,
snort,
splash, split, splat, sprung, spike, stomp, 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 ugh, thud, stomp, stomp.
Cathy Berberian dans la performance Tripsody, cantatrice américaine d'origine arménienne à la voix étendue et flexible, comme vous avez pu l'entendre. L'indignation, si elle est terreau de fertilité, quel entier sentiment. Il faut espérer que les centaines de milliers de personnes qui ont acheté le petit essai titré « Indignez-vous », tendre injonction de Stéphane Hessel, auront l'art de la rendre féconde. C'est ce grand monsieur qui nous fait, vous fait, lecture de poésie toute cette semaine. Défenseur des droits de l'homme, homme engagé, il a durant toute sa vie appris par cœur de nombreuses poésie. Vous les lire au creux de l'oreille, c'est un peu vous les retransmettre. Aujourd'hui, la balade des pendus de François Villon.
Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres abbés, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie et les pieds ça dévorés et pourris, et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si vous clamons frères, point n'en devez avoir dédain, bien que fûmes oxy, par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens assis. Excusez-nous, puisque sommes transis auprès du Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes rassis. Puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres, ne soyez donc de notre confrérie. mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tout sa maîtrise garde qu'enfer n'est de nous seigneurie, à lui n'avons que ferne que soudre, homme, ici n'a point de moquerie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ce vers-là, homme, ici n'a point de moquerie.
Stéphane Hessel, presque transformé en slameur. Il est 6h19 cette semaine. Les Polaroïdes reviennent à leur éclectique habitude. Point de thématique, point de fil conducteur. On y va, c'est un texte inédit par jour, une photographie sonore et c'est tout de suite. La pièce est vide. Je veux dire, aucun mobilier, table, tapis, ni rideau, ni drap qui aurait été trop vite déplié. La pièce est vide à l'exception de chaises, une douzaine de chaises qui recouvrent le sol de béton, partiellement habillé d'un faux parquet de plastique mou. Il est un homme, torse nu et imberbe, les cheveux noirs coupés assez courts, les oreilles rangées derrière les cheveux noirs, et le bas du corps, les fesses, les cuisses, les mollets jusqu'aux chevilles recouverts d'une sorte de bas de laine. Au-dessus de son crâne, une ampoule à nu crépite comme le feu d'un poêle. Une ampoule hésitante tenue au plafond par le seul fil électrique. Dans la tête de cet homme, une idée entêtante, une idée qui prend la place. Cela se voit de l'extérieur tant les tempes en paraissent congestionnées. Les tempes battent la chamade gonflée d'une idée trop prenante dont il faudrait se délester. Cet homme-là, torse nu et bas de laine, prend une chaise après l'autre, les empile autant que faire se peut. Essayant de faire correspondre un pied et une assise, cherchant un semblant d'équilibre, au bout de quatre chaises empilées, l'édifice est vacillant mais on peut y grimper, ce que fait l'homme qui y grimpe. Le crâne agité par l'idée obsédante, l'idée qui vibrillonne entre ses deux oreilles, d'une façon parfaitement symétrique à la vibration de l'ampoule, de plus en plus pressée, l'air de plus en plus rauque, grimpant sur la seconde puis la quatrième chaise, l'homme tend le bras vers l'ampoule folle comme un insecte enfermé. Il tend le bras, la touche, se brûle, la dévisse sans qu'une seconde ne puisse être comptée. Le noir se fait, l'idée s'évanouit, l'homme tombe, les chaises aussi. Tout peut reprendre du début, mais ce serait se tromper que de croire que l'idée, vraiment, n'y est plus. Bang 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 bang. Thank you. Chikaboom par Janko Nilovic. J'espère que je n'écorche personne. Il est 6h24 tout de suite. C'est l'heure de la vignette. Bonjour Aude.
Bonjour Marie. Théâtre ce matin en compagnie d'une jeune metteur en scène pleine de promesses. C'est la vignette avec Jeanne Candel. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
À l'affiche du Théâtre de la Cité Internationale à Paris, on découvre avec beaucoup de plaisir le travail du collectif d'acteurs La Vie Brève, dont vous faites partie. La Vie Brève, comme celle d'ailleurs du protagoniste de la pièce, un certain Robert Planquette. Et quand le spectacle commence, il est en train de mourir. Quand la scène s'ouvre pleinement, on observe ses proches au lendemain de sa mort. Voilà, c'est trigué comme premier spectacle et pour inaugurer une jeune compagnie. Alors racontez-nous, qui êtes-vous, la Vie Brève ?
Alors on est donc un collectif d'acteurs, de metteurs en scène et de scénographes, il y a une scénographe aussi. Et on s'est rencontrés tous plus ou moins à l'école, au Conservatoire National, au Conservatoire du 5e, enfin voilà, donc on a tous...
Parisiens.
Ouais, enfin on est beaucoup de Toulousains aussi, on vient de Toulouse pas mal. Ouais. Et donc on s'est rencontrés à l'école et on a commencé à travailler ensemble à l'école en fait. Moi j'ai réuni des gens, j'avais envie de faire des chantiers, de chercher... Et aussi, il y a quelque chose qui nous a pas mal rapprochés, c'est qu'on a travaillé, pour certains, avec Arpad Schilling, qui est un metteur en scène hongrois. Et après, à la sortie du conservatoire, on a travaillé 2 ans avec lui. On a fait beaucoup de laboratoires, de recherches. Enfin, voilà, c'était assez fort comme expérience. Et je pense que ça a beaucoup orienté notre travail,
ouais.
Influencé, en fait, notre vision.
Alors, quels sont les rêves du collectif La Vie Brève ? C'est vrai que c'est un très beau spectacle, celui que vous proposez. Ça donne confiance dans le théâtre français. On sent votre enthousiasme, votre envie. Quels sont les vôtres ? Quel théâtre voulez-vous faire ? C'est un théâtre qui croise à la fois un certain réalisme et un certain onirisme, pour le dire un peu vite, peut-être.
Oui, c'est ça qu'on a fait avec Robert Planquette.
Oui.
Et c'est ça qu'on a essayé de développer avec un autre spectacle qu'on a fait cet été dans un village à Villeréal, dans un festival qu'organise Samuel Vitoz, avec qui je travaille aussi, qui est le dramaturge.
Dans le Lot-et-Garonne.
Oui, et on a fait un spectacle... qui est impossible à exporter, entre guillemets, dans d'autres lieux qu'à Villeréal, parce qu'on l'a créé vraiment in situ, dans des maisons du village, dans l'église, dans un jardin. Enfin, ça a été,
Donc c'est ça que vous voulez faire, du théâtre qui ne s'exporte pas ?
Non, mais disons que ça a été une expérience très forte, très formatrice aussi. Et on a vraiment envie de développer, de faire du théâtre aussi en dehors du contexte habituel, enfin voilà, de...